version des années 60.
Salut les copains
sur RVE. RVE, il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Le parquet antiterroriste s'est saisi du dossier de Romans-sur-Isère. Hier matin, un homme a poignardé plusieurs personnes, faisant 2 morts et 5 blessés. Âgé de 33 ans, l'homme a été interpellé en fin de matinée dans la rue alors qu'il faisait une prière. Il a été placé en garde à vue comme son colocataire. Il aurait expliqué vouloir nettoyer ce pays de mécréants. Des écrits religieux ont été retrouvés à son domicile. Sa compagne, qui a également essayé de s'interposer, a été blessée. Des contrôles par milliers le long des routes. Depuis vendredi, les forces de l'ordre sont mobilisés pour éviter les départs en vacances des Franciliens, notamment cette période bien particulière de confinement. 160 000 sont mobilisés au total, mais jusque-là, les forces de l'ordre remarquent que les messages sont bien passés et même respectés. Concernant l'école, quand est-ce que les enfants vont retourner en classe? Eh bien, c'est pas sûr. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a indiqué hier qu'il était impossible de savoir quand cela se produirait. Il faudra certainement attendre plusieurs jours après le déconfinement. Du côté de la lutte contre le coronavirus, si hier on notait un léger mieux du côté des décès, avec 441 décès supplémentaires en moins de 24 heures, moins que vendredi avec son pire bilan de la semaine. 7 560 personnes sont décédées en France, dont 2028 dans les EHPAD. Hier, plus de 6 800 personnes se trouvaient en réanimation. Le gouvernement réfléchit actuellement à doter tous les Français d'un masque pour sortir dans le cadre du déconfinement. On en saura plus dans quelques semaines, très certainement. Et au niveau international, Donald Trump annonce une période qui sera vraiment horrible. Les États-Unis ont enregistré un nouveau record du nombre de décès, avec 1399 décès supplémentaires en 24 heures. Pour le moment, le pays compte plus de 8000 morts et plus de 300 000 personnes actuellement contaminées. Il est en passe de devenir le foyer principal de l'épidémie du coronavirus. Pour le moment, les pays toujours les plus touchés sont en Europe, avec l'Italie et ses 15 000 décès, l'Espagne avec ses 12 000 décès. Une note d'espoir quand même en Italie, où le nombre d'hospitalisations en soins intensifs a diminué pour la première fois depuis que l'épidémie a explosé il y a près d'un mois.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, on commence ce flash local avec l'usine PSA de Poissy qui participe activement à la fabrication des respirateurs artificiels qui manquent à notre personnel soignant. L'usine de Poissy va participer à la fabrication de 10 000 respirateurs et travailler en partenariat avec d'autres groupes industriels comme Schneider Electric et Valeo et s'associer à Air Liquide qui est le premier producteur de respirateurs artificiels en France dans son usine d'Antony. L'objectif est donc de parvenir à produire 10 000 respirateurs d'ici la mi-mai et de 4 500 entre le 15 avril et la fin avril. On reste dans l'industrie, dans la solidarité avec à Rambouillet, une entreprise qui a décidé de transformer sa fabrication pour produire des masques à partir de bâches. Il s'agit de la société InfoOne qui est à Gazeran et qui a transformé ses machines pour fabriquer non plus du marquage publicitaire mais des masques de protection. Des milliers seront distribués dans le sud Yvelines. Le chef d'entreprise qui fait tourner depuis 15 ans 2 entreprises dans le domaine du marquage publicitaire à Gazeran a vu son activité s'arrêter net avec la crise sanitaire. Après être resté une semaine chez moi, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. L'idée était de détourner les supports de communication pour en faire des masques de protection. Oui, des masques. Nous avions toutes les machines pour couper, souder, percer, a déclaré Grégory Bertinetti. Et puis du fait de la pandémie du coronavirus, le département des Yvelines a décidé d'agir et d'informer les différents publics. Vous trouverez sur son site internet tous les liens vers les accès aux services départementaux, la distribution de masques aux structures de la protection de l'enfance, la continuité pédagogique, les aides aux seniors hospitalisés, la mise en place d'un numéro vert pour les professionnels de l'autonomie, l'aide exceptionnelle aux entreprises. Vous retrouverez, comme je vous le disais à l'instant, ce dossier sur le site yvelines.fr. On termine en parlant de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire. Monsieur Marc Robert, président de Rambouillet Territoire, mais également maire de Rambouillet, dans un point presse téléphoné réalisé la semaine dernière, a parlé des principaux thèmes concernant le territoire, notamment au niveau de la mobilité. On l'écoute tout de suite au micro de RVE.
D'une façon générale, les services de l'agglomération sont aujourd'hui confinés, les personnels sont confinés chez elles. Télétravail, nous avions déjà une culture du télétravail à Rambouillet Territoire, assez développé, donc on l'a développé. Donc même si les personnes qui ne sont pas présentes au siège social sur les autres structures, voitures, ils sont tout à fait à la fois connectables et ils travaillent. On a en matière de mobilité une offre aujourd'hui qui est réduite. En définitive, ce qui s'est passé avec l'accord de Île-de-France Mobilité et de nous-mêmes, c'est de passer la mobilité des horaires en horaires d'été. Les transports en commun fonctionnent, mais en configuration été, donc avec une offre réduite, mais qui s'adapte complètement au fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui utilise nos transports. Donc on le maintient parce qu'il y a encore des personnes qui vont travailler, qui ont besoin.
Monsieur Marc Robert, président de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire, au micro de Hervé. Merci d'avoir suivi ce flash. Poursuite des programmes sur Hervé. Dans quelques instants, on va retrouver Tribune Foot avec Philippe Carnus. Vous avez eu le flash national, international et le flash local que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Je vous présente aussi la météo. Aujourd'hui, on aura normalement très peu de passages nuageux et un ciel assez ensoleillé avec des températures dans l'après-midi qui atteindront les 17 à 18 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnus.
Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Effectivement, ravi de vous retrouver pour cette émission un peu particulière, comme nous les faisons depuis l'état de confinement, émission un peu plus réduite, mais où le sport, en étant au chômage technique, eh bien, on a essayé un peu d'en savoir un peu plus sur comment on vit donc cette période de confinement, le sport, à travers plusieurs invités. Et le premier invité pour ce dimanche 5 avril, c'est notre ami Olivier, qu'on a de temps en temps à notre micro. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Oui, alors Olivier, d'abord un petit mot. Comment vivez-vous, l'homme du sport, cette période de confinement?
Ah, je suis très malheureux. Mais bon, on prend son mal en patience. Mais c'est vrai que étant amoureux du sport, moi je suis confiné comme beaucoup de personnes. Je fais du télétravail, mais malgré tout, dès que ma journée de télétravail est finie, on a toujours le réflexe d'allumer la télé, de vouloir voir un petit peu de sport, mais malheureusement, on a beau zapper à droite à gauche, il y a vraiment pas de sport à se mettre sous la dent. Donc on reprend des rediffusions, des anciens matchs, ouais. des reportages. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est, en tant qu'amateur de sport, on est très malheureux dans cette période.
Oui, alors, naturellement, on va reparler de cette période pour les sportifs. D'abord, un petit mot. Malheureusement, l'actualité nous a rattrapé. Vous, le supporter de l'OM et l'amoureux du foot que vous êtes, on va naturellement dédier cette émission à deux grandes personnalités qu'ils ont quittées, Michel Hidalgo et puis Pat Diouf.
Tout à fait. Tout à fait. Malheureusement, on a appris les tristes nouvelles à 3 jours d'intervalle. C'est vrai que c'était deux grandes personnes, deux grands monuments du sport. On fait beaucoup pour le football français, mais en particulier pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai que malheureusement ce virus n'épargne personne. On croit, quand on voit la carrure de Pape Diouf, apparemment en 3 jours de temps il a été balayé. On savait que Michel Hidalgo avait quelques petits soucis de santé ces derniers temps. Malheureusement, ça l'a pas épargné, ça l'a emporté. Mais c'est vrai que c'était je pense que l'Olympique de Marseille et ses supporters, quand le confinement sera terminé, que j'espère très rapidement, mais personne ne sait, que quand le sport reprendra, je pense que l'OM fera un très bel hommage à ces deux légendes du sport et surtout du football français, de l'Olympique de Marseille.
Oui, et deux humanistes, aussi bien pour Michel Hidalgo que pour Pat Diouf.
Tout à fait. Ils ont fait beaucoup à leur niveau. Michel Hidalgo a incarné, entre guillemets, 1984. C'est vrai que j'étais assez jeune, mais c'est lui qui a inculqué effectivement la
victoire. Ah, nous, on s'en rappelle, quelle époque, on s'en rappelle, nous.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est lui qui a donné le premier titre à l'équipe de France en 84. Contre l'Espagne avec la fameuse arconada sur le coup franc de Michel Platini. Et Pape Diouf, c'est Pape Diouf, il a été agent de joueur, il a été journaliste, il s'est lancé, il a eu la chance d'être président de l'Olympique de Marseille, il a fait que du bien à Marseille et il a redonné un semblant de grinta à Marseille où Marseille est un petit peu moins bien. Et il a redonné confiance à l'équipe, il a mis des dirigeants en place. Il a surtout rendu très fiers tous les supporters de l'OM et remonté un petit peu plus l'Olympique de Marseille là où il devrait l'être.
Alors, en tout cas, on rendra hommage du côté de la Canebière à ces deux grandes personnalités du foot. Vous l'avez dit, Olivier Pape Diouf est mort du coronavirus. On est en plein, malheureusement, dans l'actualité.
Tout à fait. C'est vrai que moi, personnellement, le soir, au début, on est tous en train un petit peu de regarder les journaux à droite à gauche. Moi, j'ai un petit peu stoppé, pour être franc. C'est vrai que est-ce que les journaux nous disent des chiffres? Bon, je pense que malheureusement ils n'inventent pas les chiffres, mais c'est vrai que ça fait un petit peu froid dans le dos, ça fait un petit peu peur d'entendre tous ces chiffres tous les jours, ces personnes qui meurent. Ça fait peur, et encore on parle que de la France, mais quand on voit ce qui se passe dans nos pays voisins, en Espagne, en Italie et même aux États-Unis maintenant, j'ai cru entendre dernièrement que il y avait un mort toutes les 3 minutes à New York, quoi. C'est incroyable. On se croirait dans une science-fiction, dans un film. Je sais pas. Je pense que on est tous en train de vivre un cauchemar. Mais combien de temps il va durer, ce cauchemar, quoi. Je sais pas. On va se réveiller. On va nous dire que je sais pas, que c'est pas vrai. Mais malheureusement c'est bien réel, quoi. À part écouter, que tout le monde prenne soin de soi, rester confiné, rester chez soi et se laver les mains et tout ce qu'on entend à la télé, c'est vrai qu'à notre niveau, il n'y a pas grand chose à faire, malheureusement, à part écouter et surtout faire attention, quoi.
Oui, alors effectivement, Olivier, c'est des scènes complètement surréalistes qu'on n'aurait jamais pensé vivre un jour dans notre vie, quand même, hein. C'est quand même assez fou, quoi.
Ah ouais, c'est voilà, même un mois en arrière entre guillemets, on n'a pas trop pris ça à la rigolade, mais entre collègues, même au travail, on rigolait quand quelqu'un disait vous allez voir dans quelques temps qu'on va être tous confinés chez nous. Bon, on se foutait un petit peu de lui en disant mais oui cause toujours, voilà. Mais effectivement, il avait raison, quoi. Ça a pris des telles proportions. Jamais j'aurais cru que ça prendrait de telles proportions. Et il n'y a pas que le sport qui est touché, quoi. C'est incroyable, c'est tout, quoi. Toute l'économie du pays, les compagnies aériennes, les personnes qui voulaient partir en voyage, les restaurateurs, les petits commerçants des petites villes. C'est vrai que malheureusement, du jour au lendemain, je sais pas comment, entre guillemets, le pays va se remettre de ça et va se remettre à vivre normalement. Surtout comment, dans un premier temps, mais surtout quand, c'est ça, personne ne sait. Donc le pic est annoncé, je crois, pour la semaine prochaine, mais en fait je crois que personne ne sait, quoi. Je crois que c'est impossible de dire une date. Et ça peut être fin avril, ça peut être mai, faut se rendre à l'évidence. Tout ne reviendra pas à la normale. Un beau matin, en se levant, allez, vous pouvez reprendre votre activité. On oublie tout et on repart comme avant, quoi. Malheureusement, il faudra y aller progressivement. Mais je crois que c'est l'éternelle interrogation. Je crois que personne n'a de réponse.
Oui, alors Olivier, crise sanitaire, crise économique, et puis aussi fatalement crise psychologique, hein, parce que ça va laisser des traces. Être confiné pour certaines personnes, c'est ni plus ni moins être en prison et être en liberté, quoi.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est nous, on parle en tant qu'amateur de sport. Effectivement, j'ai malgré tout la chance de faire mon télétravail chez mes parents et de bénéficier d'un pavillon et d'un petit bout de terrain et du jardin. Donc j'arrive malgré tout à sortir un petit peu, m'aérer, mais je me mets effectivement à la place des personnes qui sont confinées sur Paris ou ailleurs, sur les grandes villes françaises, qui sont dans des appartements 40 mètres carrés au cinquième étage sans ascenseur, et qui sont les malheureux, à part mettre la tête à la fenêtre et prendre un peu l'air. C'est vrai que je me mets à leur place, ça doit être très 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 dur, quoi. On ne sait quoi dire, quoi. Je pense qu'on est tous on est tous un peu pareil, on est tous estomaqués par les proportions et l'ampleur que ça a pris, quoi.
Et puis Olivier, parmi tous ces gens confinés et qui sont aussi dans des étroits restreints, il y a beaucoup de sportifs amateurs et puis des sportifs aussi professionnels et de haut niveau. Ça aussi, ça pose problème.
Tout à fait. Tout est à l'arrêt, quoi. Donc effectivement, on est des grands amateurs de football, mais faut pas oublier les autres sports. Aussi bien le rugby, le vélo, le tennis. Et c'est vrai que tous ces sportifs, même qui étaient en train de préparer les Jeux Olympiques, il y a quelques quelques mois des Jeux Olympiques de Tokyo, bah c'est vrai que entre guillemets pas tout s'écroule, mais en tout cas tout s'arrête pour eux. C'est vrai qu'ils avaient plus ou moins fait un programme pour être prêts pour le mois de juillet. Et puis bon, la décision est tombée. Les JO, bon, sans doute, j'imagine, mûrement réfléchi et sage décision, les JO seront portés en 2021. Donc, mais bon, je me mets effectivement à la place de tous ces sportifs. Et bah, tous ces sportifs, je prends pour exemple un joueur entre guillemets banal de Ligue 1. Ils n'ont pas tous la chance d'être dans des pavillons avec piscine et s'entretenir. Il y a malheureusement des joueurs entre guillemets banals de Brest, Toulouse, Rennes qui sont, je pense, confinés dans leur appartement. Et maintenant, on va leur dire qu'il faut reprendre une saison, terminer la saison et enfin, faut remettre la machine en route, quoi. Là, c'est vraiment une sacrée coupure, quoi. Je sais pas, honnêtement. Pareil, je pense que personne n'a les réponses aux questions. On parlait d'une saison blanche, on parlait de reprendre au mois de juin, on parlait même peut-être éventuellement carrément laisser passer l'été et reprendre en septembre. Mais je pense que toutes les propositions vont être étudiées, mais je pense quelle est la meilleure, quoi qu'il arrive. Il y aura des clubs qui seront gagnants et d'autres perdants. Donc, c'est vrai qu'on vit une triste période en ce moment.
Oui, comme on l'a vu, hein, il y a même des sportifs qui ont été obligés de trouver des solutions, d'improviser dans leur garage, dans leur jardin, pour ceux qui le pouvaient, quoi.
Tout à fait. J'ai vu effectivement sur les réseaux sociaux des athlètes bah, qui essayent malgré tout de s'entretenir et de rester en forme. Donc oui, j'ai vu qu'effectivement même Renaud Lavillenie a dans son jardin carrément un perchoir. Donc il peut malgré tout s'entretenir et faire quelques sauts. J'ai vu, je suis tombé sur quelques reportages, effectivement, où ils essayent tous. Au niveau de tennis, j'ai vu que Caroline Garcia était dans l'académie de Rafael Nadal en Espagne. Donc bon, entre guillemets, elle est bien tombée. Ça aurait pu être pire. Donc chaque athlète essaye comme il peut de s'entretenir, des petits footings. Aux alentours de chez eux, ils sont confinés effectivement dans leur garage. Ils font de la gym, ils essaient de bouger, et surtout de. Bah, c'est vrai que les sportifs de haut niveau, c'est leur gagne-pain, c'est leur métier. Donc tous les jours, c'est le sport à fond. Donc là, je me mets à leur place, ils doivent être vraiment très 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 malheureux, quoi.
Oui. Alors on en a parlé la semaine dernière aussi, Olivier. On a vu quand même un monde sportif très solidaire, très généreux, à travers des actes, des actions et même des dons. Hein. Certains ont donné beaucoup d'argent pour aider les différents centres hospitaliers notamment.
Oui, tout à fait. J'ai vu ça aussi. Je crois que Kylian Mbappé a fait très gros chèque. Ils n'ont pas voulu dévoiler le montant, mais on imagine qu'il y a quelques zéros derrière. Après, il y a eu finalement des clubs aussi. Il y a des groupes de supporters aussi. Se réunissent et font des dons ou des quêtes et qui vont aussi beaucoup pour les personnels soignants. Enfin, tout le monde se mobilise, quoi. C'est vrai que on essaye tous, hein, à notre petit niveau, que ce soit sportif ou autre, on se serre les coudes, quoi. On se serre les coudes. On essaye, tant bien que mal, par nos petits moyens, de trouver des solutions, mais surtout de donner du courage à toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, surtout à eux qu'on pense. Tous les jours, ils doivent assister à des scènes surréalistes, et c'est vrai que je leur souhaite énormément de courage, quoi.
Bon, Olivier, on marque une toute petite pause, et puis on se retrouve d'ici quelques minutes. On y va.
RVE, vivez votre région. RVE sur radio-rve.com.
Les meilleurs ennemis du monde, voilà ce que nous sommes. Amorce de sourires et de bombes, et du mal qu'on se donne. C'est toi contre moi, on s'y retrouve, on s'y perd. C'est toi contre moi, on se révolte, on se soumet. C'est toi contre moi, la guerre encore, on s'y fait. Mais toi contre moi, pourvu qu'on reste les meilleurs ennemis du monde. Et tant pis si on est le mariage du ciel et de l'ombre. Je te hais. On s'y perd. C'est toi contre moi, on se révolte, on se soumet. C'est toi contre moi, la guerre encore, on s'y fait. Mais toi contre moi, pourvu qu'on reste. Le détour quand tu prends de l'avance, ennemi. Le discours quand tu veux le silence.
Plomb, Loi Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnosticaupluriel.fr.
Rambouillet, 14 bis Ruchal, SMA Fenêtre, votre spécialiste de la menuiserie extérieure, vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres. Store, volets, portes et portes de garage. Sur mesure, en PVC, bois ou aluminium. SMA Fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste SMA Fenêtre, 14 bis Ruchal à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Le garage MBM situé au Pâtisse à Rambouillet est ouvert pendant cette période de confinement. Le garage MBM fait partie des commerces autorisés à ouvrir. Le garage MBM se propose de venir chercher et ramener votre véhicule dans le respect des consignes d'hygiène. Contactez le garage au 01 30 41 79 57, 01 30 41 79 57.
Et maintenant, une demi-heure sans pub. Une demi-heure sans pub sur RVE.
RVE.
Vivez votre région. Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, donc deuxième partie de cet entretien avec notre premier invité, Olivier. Alors Olivier, on parlait du don fait par les sportifs. Certains s'impliquent aussi carrément. Hein. On a vu par exemple des sportifs aller livrer aux personnes vulnérables de la nourriture ou du courrier. Hein. Certains même viennent renforcer carrément et aider le personnel hospitalier sur place.
Oui. Tout à fait, tout à fait. Je suis tombé aussi. Ouais. Bah, c'est vrai que je zappe un petit peu à droite à gauche sur les différentes émissions, enfin ce que je peux trouver. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait un. Je ne connais pas son nom, j'ai pas mémorisé son nom, mais un champion français qui devait faire les JO, qui fait du VTT, qui tous les matins, apparemment, on l'appelle et il prend la liste des commissions des différentes personnes dans son entourage, donc essentiellement des personnes âgées. Qui fait le tour des supermarchés, des boulangers et surtout ce qu'ils ont besoin. Et puis c'est d'un côté, il joint l'utile à l'agréable parce que ça lui fait son sport. Et puis tout le monde y trouve son compte parce que les personnes sont bien contentes d'être confinées chez elles et recevoir leur course à leur domicile. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je sais que beaucoup de sportifs se mobilisent quoi. Tout à l'heure on parlait éventuellement financièrement, mais aussi mettre la main à la pâte et viennent renforcer quand ils le peuvent selon leurs compétences, soit à l'hôpital, soit même peut-être les forces de l'ordre, ou tous les différents métiers qui sont mis en avant durant cette confinement.
Oui, justement, ça nous permet de rendre encore hommage encore plus fort à tous ces différents métiers qu'on applaudit chaque soir à 20h, hein, tous ces différents métiers liés naturellement au secteur médical.
Tout à fait, tout à fait. On pense effectivement avant tout aux médecins, aux infirmières, tous ceux...
Les aides-soignants, tout ça,
Les aides-soignants, etc. Mais c'est vrai que c'est un bel hommage tous les soirs à 20h, effectivement, que les Français... applaudissent à leur fenêtre. Moi, le premier, hein. Bon, malheureusement, j'habite dans une petite ville. On n'est pas nombreux le soir à applaudir, mais bon, c'est un esprit. Faut être solidaire. C'est un dur moment à passer. Il n'y a pas de mots à part leur dire un grand, grand bravo et un énorme courage à toutes ces personnes qui aident de près ou de loin à ce que la vie soit un petit peu moins délicate pour tout le monde.
Alors, Olivier, on l'a dit, beaucoup d'épreuves de reportées, hein, l'Euro de foot qui se déroulera en 2021, les Jeux Olympiques, il y a encore des incertitudes sur le Tour de France, hein, et puis on voit des gros tournois comme Wimbledon être carrément annulés, ça a été une saison blanche pratiquement pour le tennisman et puis les cyclistes. Qu'est-ce qu'on peut finalement... Vous pensez qu'on peut relancer la machine à travers les différents championnats, qu'on peut malgré tout trouver le temps de finir les différents championnats de foot ou de rugby notamment?
On peut. Maintenant, comment? On va pas pouvoir étendre le calendrier très très loin non plus. Oui, dans l'esprit, il faudrait. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir? Je sais pas. Parce que finalement, je vois qu'en Ligue 1, il reste encore 10 journées à faire. La Ligue des Champions, on est à peine au quart de finale. L'Europa League, pareil. Le top 14, il reste encore 9 ou 10 journées de championnat. Derrière, ça débouche sur des phases finales, sur des... Enfin, c'est le tennis, j'en parle même pas. L'ATP a annoncé qu'il n'y aurait pas de tennis jusqu'au 13 juillet. Donc, 13 juillet, il n'y a pas eu Indian Wells, il n'y a pas eu Miami, il n'y a pas toute la préparation terre battue, les Monte Carlo à Madrid, il n'y a pas eu. Il y a Roland Garros qui est reporté en septembre, même Wimbledon est annulé. Enfin, c'est à tous les niveaux, c'est alors, toutes les différentes fédérations, je suppose, doivent se creuser la tête, doivent faire beaucoup de réunions pour essayer de trouver une solution, apporter une solution à tout le monde, pour surtout satisfaire tout le monde. Mais je crois que malheureusement, ils vivent un petit peu au jour le jour et un petit peu semaine après semaine, et selon l'avancée des choses. Je parle pour pour la Ligue 1, mais je suppose que sur les autres championnats, en Italie, en Allemagne, en Espagne, c'est un petit peu le même casse-tête. Donc, j'ai vu que aussi du côté de l'UEFA, ils voulaient absolument malgré tout jouer les coupes européennes, et quitte à faire même une finale au mois de juillet ou au mois d'août. Donc tout va être décalé quoi qu'il arrive. Je pense que la prochaine saison ne reprendra pas au mois d'août, c'est quasiment sûr. Je sais pas. Honnêtement, même moi, j'ai beau même sans me donner mon avis, je sais même pas ce qui est le mieux en fait. Je sais pas, faire une saison blanche, faire on oublie tout, mais bon, après je me mets à la place de certains clubs qui ont malgré tout fait un bon début de saison, et on leur dit maintenant vous avez fait tout ça pour rien, tout ce que vous avez fait, on met tout à zéro. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Donc ça peut aussi sauver certaines équipes. Je vois Toulouse qui est au niveau Ligue 1 qui est dernier, ça se trouve ça va peut-être les sauver. Je me mets à la place des équipes qui jouent la tête en D2, est-ce qu'ils vont malgré tout pouvoir monter, est-ce qu'on nous met à zéro, c'est beaucoup d'interrogations. On n'a pas les réponses, comme c'est vrai, c'est délicat.
Oui, on peut craindre carrément l'annulation de certains championnats, certaines épreuves, dire allez, on arrête là et puis on n'attribue pas de titre de champion. Mais comment on va faire pour les Coupes d'Europe pour attribuer les équipes qui vont représenter les équipes françaises, notamment en Coupe d'Europe, où on s'arrête au classement actuel?
C'est ça. C'est l'éternel débat. Comme je disais tout à l'heure, il y aura des clubs qui seront entre guillemets gagnants et d'autres qui seront perdants. Donc notre grand ami Jean-Michel Aulas a déjà à peine le confinement annoncé dès le lendemain, il annonçait déjà faut faire une saison blanche et remettre les mêmes équipes que cette année en Coupe d'Europe pour l'année prochaine. Bon, on connaît son amour pour son club, il défendra son club bec et ongles. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce qu'il faut entériner le classement actuel? En tant que supporter de l'Olympique Marseille, je dirais oui.
Oui, c'est sûr.
Mais bon, non, mais je pense que malgré tout, il y a des têtes pensantes au niveau de la Ligue, au niveau de la Fédé, qui vont quand même, je pense, se mettre autour d'une table et puis discuter sereinement et aller dans le sens... je pense qu'ils vont prendre malgré tout les meilleures décisions possibles afin que les clubs soient le moins perdant possible, même si j'ai entendu que beaucoup de petits clubs avec des budgets moyens vont avoir quand même du mal à payer leurs employés. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs à mon avis, j'espère pour eux avoir une aide de la Fédé, parce que je pense qu'il y en a certains qui vont vite plonger dans le rouge, à mon avis.
Ouais, et puis on perd aussi des droits télé actuellement, hein, des chaînes qui refusent naturellement de payer leurs droits télé, puisque tous les matchs n'ont pas été retransmis. Et il va y avoir beaucoup de règlements de compte après cette sortie de confinement et de crise.
Tout à fait. Et oui, j'ai vu qu'avec Canal+, il y a Bein qui emboîte le pas, qui veut faire un peu pareil. Ah, il y a tellement de millions en jeu que chacun tire la couverture à soi et voilà quoi. C'est des histoires de gros sous. Donc nous, à notre petit niveau, en tant qu'amateurs de sport, c'est vrai que ça nous dépasse. C'est des sommes colossales. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit en bonne santé, parce que bon, c'est vrai que le sport, on aime le sport quoi, quel qu'il soit. On aimerait être sur les terrains de sport tous les samedis à encourager son équipe ou n'importe quoi. Mais actuellement, bon, bah, malheureusement, faut prendre son mal en patience. C'est entre guillemets la santé avant tout, et que tout le monde soit en bonne santé et se confine. Et puis voilà, c'est que secondaire, j'ai envie de dire, le sport. Mais faudrait que tout le monde, tous les grands artisans du sport se retrouvent en bonne santé à la rentrée, et nous propose encore de très 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 beaux championnats et des très grandes rencontres sportives.
Merci en tout cas, Olivier. Juste pour finir, la vie sera différente après.
Ah, je pense que il va y avoir quelque chose. Je pense qu'on pourrait dire il y a eu l'avant et l'après, quoi. Je sais pas. Ouais. Que je pense que tout le monde va pas reprendre une vie entre guillemets normale du jour au lendemain. Quoi. Il y aura toujours un, je sais pas, il y aura toujours une crainte, il y aura toujours une peur, il y aura toujours, je sais pas, ça difficile à dire, mais je pense qu'il y aura un avant et un après.
Ça aura laissé des traces.
Ouais, ça va laisser des traces, je pense. Ouais.
Très bien. Merci Olivier d'avoir témoigné, d'avoir été le premier témoin de ce dimanche 5 avril. Et puis à très bientôt sur l'antenne d'erreur. Merci en tout cas de vos témoignages.
Ok. Avec plaisir. À bientôt.
RV1 103.7.
Mon cœur trop mince, je suis un robot. Ils m'ont donné le regard d'un autre œil pour voir plus loin que le ciel. Je suis un robot. À chaque nuit quand on me laisse, je m'éteins mais il me reste des souvenirs en trop. Ils m'ont coupé les jambes et mis des pierres, de peur que je sois trop fier. Je suis un robot. Et dans ma voix plus rien ne vibre, seul mon cœur est de fibre. Je suis un robot. Et sous mon masque de fer, je sens passer un peu d'air sur ce qu'il me reste de peau. Mais je veux vivre, même en souffrir, avoir une ombre derrière le dos. Je veux lui plaire, me mettre à terre, sentir de l'eau sur ma peau, sentir de l'eau sur ma peau. Ils ont effacé mon sourire, de peur que je puisse en rire. Je suis un robot. Ils m'ont fait un visage de verre, mon âme est à découvert. Je suis un robot. À chaque nuit quand on me laisse, je regarde le temps qu'il me reste, planté comme un drapeau. Mais je veux vivre, même en souffrir, avoir une ombre derrière le dos. Je veux lui plaire, me mettre à terre, sentir de l'eau sur ma peau, sentir de l'eau sur ma peau. Sentir de l'eau sur ma peau.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Allez, deuxième invité de cette matinée sportive, notamment consacrée au foot, hein, puisque c'est le créneau du Tribune Foot, c'est notre ami Stéphane Desenclos, du foot et du site internet Le Quotidien du Foot. Stéphane, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Stéphane, un petit mot d'abord. Comment vivez-vous aussi cette période de confinement?
Bah, écoutez, je la vis comme tout le monde la vit, ou comme tout le monde doit la vivre, c'est-à-dire en sortant pas de chez nous. C'est vrai que c'est pas évident maintenant, on essaie de mettre en place tout ce qu'on peut pour récolter des informations sur tout ce qui se passe quand même, qui continue quand même à se passer dans le monde du foot, puisqu'on a vu qu'il y a des réunions à la UEFA et aux instances de tout se fait par téléphone, par exemple.
Oui,
Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite des compétitions? Parce qu'on se pose la question de savoir si un jour ou l'autre, même si c'est dérisoire par rapport à tout ce qui se passe actuellement, est-ce que les compétitions vont pouvoir reprendre et vont pouvoir aller à leur terme?
Bah, c'est sûr que je sais pas vous, mais c'est vrai que moi, on a un peu tous du mal, je pense, à se projeter, à se dire, comme ça, d'un claquement de doigts, on va se retrouver tous dans la rue, à se faire la bise, à se dire bonjour, à être à 20 ou 30 ou 40 000 dans un stade. C'est clair. Maintenant, c'est vrai que tout, au jour d'aujourd'hui, les signaux envoyés par les instances du foot, en tout cas, plutôt, nous permettent d'être un peu optimistes, mais il restera toujours le fameux, sont tous liés à l'évolution de la crise sanitaire fort précédente. Et donc, effectivement, on peut être forcément inquiet par rapport à ça. Quoi.
C'est une crise à laquelle vous attendiez, parce que personne n'a vu venir, hein, nous les premiers, c'est enfin, même complètement surréaliste ce qu'on fait actuellement.
Ah oui, c'est complètement surréaliste, effectivement, parce que d'abord, on s'attendait bien sûr pas, et je crois que personne en France, au mois de février, on le voit chaque jour, ne s'attendait à une telle ampleur. Et puis en plus, c'est vrai qu'on a l'impression que ça se ralentit toujours, même au je sais que, je sais pas où, moi, ma fille va voir un concert au mois de juin, je lui dis, on va pas lui avoir dit il y a 15 jours, t'inquiète pas, c'est sûr, il y aura le concert au Parc des Princes et tout, voilà. Et puis maintenant, plus on avance, plus on doute énormément quand on voit Wimbledon annulé, qui était, je crois, du 20 juin au 15 juin, pas 20 juin, début juillet, et quand on voit qu'ils annulent, c'est vrai qu'on a de quoi un peu s'inquiéter, quoi.
Oui. On a vu notamment l'Euro qui a été reporté, hein. C'était une sage décision.
Bah oui, ça, je pense que c'était une sage décision évidente, quoi. C'était même, ça a même, je trouve, un peu traîné pour bien que ça, finalement, parce que bon, quand on voit le format de l'Euro, en plus de ça, de que ça soit une compétition donc, qui est arrivée quand même assez tôt, et quand on voit son format, se dérouler dans 12 pays, ça paraissait complètement hallucinant, même si on arrive à retrouver. À sortir d'un confinement, à retrouver une vie à peu près normale, tous simples citoyens, au mois de mai, on ne pouvait pas envisager des flux de supporters comme ça qui traversent par centaines, par milliers, tous les pays européens au mois de juin.
Oui, alors Stéphane, naturellement, s'arrêter de façon aussi importante pour un sportif de haut niveau, ça pose fatalement problème. Il va y avoir une reprise qui va être très difficile pour certains sportifs.
Bah, tout à fait, ça va être très très compliqué. C'est vrai que aujourd'hui pour une reprise, par exemple si on va sur une reprise ah ouais. Du championnat à la fin du mois de mai ou au tout début du mois de juin, voudrait dire que fin avril ou début mai au plus tard les clubs aient les moyens de s'entraîner sérieusement, quoi. On le voit, ça ferait par exemple un mois et demi dur. Et quasiment encore plus que la coupure estivale habituelle, et les clubs s'entraînent normalement pendant un bon mois avant de reprendre la compétition, même plus pour certains de reprendre la compétition pendant l'été. Donc c'est vrai que ça va être et surtout qu'on va leur demander, si jamais ça se passe dans le meilleur des cas, on va leur demander quand même un rythme effréné à la reprise. Il va faire je crois que ça fait si ça doit se terminer fin août et que ça prend début juin, il y a 10 week-ends pour 10 journées de championnat, plus les deux finales de coupe, plus le match en retard du PSG, en considérant qu'on ne joue pas la Coupe d'Europe dans cette période-là. Quoi. Donc, c'est vrai que ça va faire des matchs tous les trois jours. Quoi.
Est-ce que les grands clubs sont avantagés dans ces cas-là, Stéphane?
Ben, ça, effectivement, c'est une question qui mérite d'être posée. Et moi, forcément, je dirais forcément oui. Quoi. Parce que quoi, les grands clubs, c'est loin et pas forcément aujourd'hui le plus approprié, parce que on a un club comme Marseille par exemple qu'on peut considérer comme un grand club va je pense faire partie des clubs les plus désavantagés de Ligue 1 sur une reprise par rapport à leur effectif pour tenir le rythme. Et c'est sûr qu'un club comme le Paris Saint-Germain par exemple voire Lyon qui peuvent quasiment aligner deux équipes capable d'avoir des résultats, Monaco par exemple, forcément ces clubs-là ils vont être un peu avantagés. Si on joue tous les trois jours, c'est quelque chose qui me semble évident.
Alors,
le responsable du foot que vous êtes et du monde du quotidien du foot, pardon, le site internet, est-ce qu'on peut parler de foot quand il y en a plus? Est-ce que c'est pas
c'est vrai, c'est très compliqué. Non, on peut pas trop parler de foot. C'est sûr que là, si on prend à la lettre la phrase, on peut pas plus trop parler de foot. On peut parler de ce qui se passe et ce qui concerne le monde du foot. Par exemple, là, vous voyez, j'ai eu quelques informations. Je suis en train de travailler sur un article par rapport à la reprise, sur ce qu'on sait, sur ce qui est possible d'avancer, comment ça va se passer, tout ça. Ce sont des informations que les gens qui sont en monde de foot, de toute façon, attendent et sont désireux de lire. Maintenant, c'est vrai que c'est pas parler de foot en lui-même. On peut pas parler de comment on va réagir le PSG par face en quart de finale par rapport à son tirage, si Lyon peut faire l'exploit à la Juventus, si Saint-Étienne a une chance de gagner la finale de la Coupe, la finale de la Coupe de la Ligue, d'ailleurs, qui aurait dû avoir lieu ce week-end, je crois.
Oui, ça devait être effectivement ce samedi.
Voilà, donc ça, c'est vrai que ça, on n'en parle plus maintenant. C'est vrai que c'est quand même d'abord, c'est le reflet, ça a toujours été le foot, a toujours été quand même le reflet de la société, un stade de foot au niveau de ses occupants, des supporters, c'est un peu le reflet d'une représentation de la société. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça aussi. À travers le foot, on retrouve toutes les problématiques liées, bien sûr, à la crise, bien sûr, secondaire, on est bien d'accord, hein, par rapport à la santé des gens qui est prioritaire, mais après ça, on voit qu'on retrouve les problématiques économiques, qu'on retrouve les problématiques de même ne serait-ce que de loisirs, mais même plus, ça va au-delà du loisir, quoi. Il y a des gens circuler sur les réseaux sociaux, sur Twitter et tout, il y a des gens où on se rend compte de l'importance que peut avoir pour eux, en tout cas dans leur vie, ce sport, quoi, cette activité. Donc c'est vrai que ça reflète forcément une partie de la société, donc forcément aussi ce qu'on va être amené à écrire, à continuer de faire et tout, de manière différente, bien sûr, va forcément aussi rester. C'est pas, mais c'est différent. Voilà.
Bon, Stéphane, on poursuit cet entretien dans quelques minutes, ok? Allez, ok, on se retrouve là-dessus.
RVE, vivez votre région. Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
Et maintenant, retour des hits sur RVE. RVE. Vivez votre région. RVE 103.7.
Baby, Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, donc deuxième partie de notre entretien avec notre ami Stéphane Dezenco. Stéphane, le monde du foot a été très solidaire hein, vis-à-vis de cette crise. On a vu beaucoup de dons donnés à divers donc, hôpitaux et centres médicaux.
Ah, tout à fait, puisque ce qui est aussi assez incroyable, c'est qu'on a vu, ils n'ont pas beaucoup de dons de joueurs de foot, des grandes stars, notamment, c'est quoi les grandes stars, c'est surtout d'elles dont on a entendu parler, qu'on beaucoup ont donné de l'argent. On a beaucoup parlé de Ronaldo, le Vendosti, Mbappé, comme on en passe, Marc, le Brésil, quoi, il y en a eu plein, Messi, il y en a eu plein comme ça. Mais il y a aussi un mouvement incroyable sur les gens le savent un peu moins, des associations de supporters.
Absolument.
Dans certains clubs, un club comme Grenoble, par exemple, les supporters de Grenoble ont lancé une cagnotte pour lever des fonds pour aider le personnel hospitalier. Il y a des supporters du Paris Saint-Germain qu'on a vu, par exemple, beaucoup, qui ont été même un peu décriés par ce qui s'est passé dans le cadre du match par rapport à la propagation du coronavirus, qui s'est passé autour du match contre Dortmund. Le collectif Ultra, qui est la principale association du Paris Saint-Germain, organise des livres, les hôpitaux en pizza, en denrées alimentaires pour s'occuper des soignants et tout. Donc c'est vrai qu'il y a une solidarité quand même très importante. Et notamment, moi, je pense qu'au niveau des supporters, on dit souvent qu'il y aura un avant, un après cette période terrible. Mais il y aura aussi une façon différente de voir les supporters de football.
Oui, et puis ce qui nous permet naturellement d'avoir une pensée, mais ça on dit à chaque émission, pour tout ce personnel hospitalier qui se bat hein, pour le maintien de vie, avec un regard probablement hein, différent à partir de maintenant.
Voilà, ouais, tout à fait. Bah, tout à fait. Bah, écoutez, ça vaudra certainement. C'est pareil aussi. Bon, il y aura un avant, un après, sans aucun doute pour tous ces gens-là. Mais c'est vrai que moi je voudrais juste, ça n'a pas de rapport à ce que je voudrais aussi. Bon, on parle beaucoup des soignants et on a la raison et merci à eux. Je fais partout avec toute ma famille d'applaudir tous les soirs à 20h. Mais il ne faut pas oublier aussi tous les autres gens. Moi, quand je vais quand je vais une fois par semaine faire mes courses, les gens qui sont là, les caissières qui viennent travailler dans les grandes surfaces et les poids lourds qui sont les grands oubliés un petit peu de cette reconnaissance qui circule toujours dans des conditions très très difficiles et faut pas oublier tous ces gens, en fait tous les gens qui continuent de travailler non pas pour faire le business, bon, il y en a qui sont obligés de faire leur business, et tous les gens pour en fait servir les autres, les gens dans les pharmacies, les gens toutes ces choses là quoi.
Alors vous l'avez dit Stéphane, il y aura un avant et puis un après. Fatalement la vie ne pourra plus être la même après donc cette crise sanitaire.
Ah, écoutez, moi, je effectivement, c'est la chose facile à dire. La vie ne pourra pas être ce qui paraît quoi est facile à dire, ce qui paraît tellement évident. Maintenant, la nature humaine est telle que donnons-nous rendez-vous dans 4-5 ans, et puis je serais pas surpris de voir certains qui écrivent ou qui disent hein, on a pas retenu la leçon de ça, de ci. Et de plein de choses quoi. C'est vrai qu'il y a plein de choses il y a certainement plein de choses à retenir de cette période et de s'en servir pour évoluer différemment quoi. Maintenant c'est clair ça, tout ce qu'on dit là c'est d'un point de vue social est tellement banal, pratiquement banal et basique quoi. Maintenant bon pour ce qui concerne le monde du foot, je pense que ça aura effectivement aussi son impact, notamment par rapport à la parce que c'est mon grand point de vue, le grand changement pour moi, c'est l'implication des supporters du monde du foot et tout, qui vont peut-être aussi regarder d'un œil différent par les gens qui vont informer.
Bon, bah Stéphane, quand le foot aura repris ses droits, ça voudra dire que ça ira beaucoup mieux.
Voilà, bah exactement. Je vous dis, c'est un reflet de la société, de toute façon. Alors, si un jour, je ne sais pas dans combien de temps, hein, parce qu'il va y avoir... On a vu notre premier ministre qui a annoncé que de toute façon le déconfinement ne se ferait pas d'un coup comme ça, parce qu'on devait bien tous se douter, et pas pour tout le monde, ça pourrait se faire par région, par période, par tranche d'âge, par choses comme ça. C'est-à-dire donc la fin par exemple d'un confinement, entre la maintenant et une finale de Coupe de France par exemple, hein, pour dans le meilleur des cas au Stade de France avec 80 000 personnes qui font la fête entre PSG et Saint-Etienne,
à mon avis, il va se passer plein de choses. Et c'est sûr que si jamais cet événement pouvait avoir lieu, c'est vrai que ça voudrait dire qu'il y a plein de choses pour changer. D'un point de vue personnel, si vous voulez mon avis personnel, je pense que peut-être le championnat, quoi, peut-être, j'espère et je crois même que le championnat va aller à son terme. Je suis pas certain que les finales de coupe elles aient lieu avant l'été. En fait, je pense qu'elles auront lieu, mais est-ce qu'elles vont pas avoir lieu en septembre, en octobre, je sais pas.
Très bien. Bon, bah, pour finir cette émission un peu particulière ce matin, un hommage quand même à deux grands noms du foot qu'ils ont quittés, Michel Hidalgo et Papi Mouf.
Ah ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que ça a été une semaine, ça a été des jours aussi très très difficiles pour le football français et pour le football marseillais en particulier, puisqu'il se trouve que Papi Mouf a été président pendant 4 ans de l'OM et que Michel Hidalgo avait été directeur sportif de l'OM, bien que l'un comme l'autre ne soit pas, malheureusement, la tristesse de leur disparition ne soit pas liée uniquement à leur passage à l'OM, mais c'est plutôt les hommes qui aidaient et tout. On a malheureusement trop coutume de dire que c'est les meilleurs qui partent en premier. Michel Hidalgo avait 87 ans, mais Fabio Diouf, le choc est peut-être encore pire pour et puis il a surtout été fatigué et puis un peu malade, Michel Hidalgo, mais Fabio Diouf, c'est sûr que c'est. Ça a été assez brutal, inattendu, surtout nous en France, on a appris, quoi, pour ma part, moi j'ai appris dans l'après-midi, qu'il était hospitalisé parce qu'il souffrait du coronavirus, qu'il allait être rapatrié en France, et puis une heure après, son décès, donc ça a été très très brutal, et c'est des gens qui les font de toute façon une trace, je pense, à des débiles dans le monde du foot. Tous les deux à leur niveau par leur charisme, ce qu'ils représentaient, ce qu'ils ont pu faire dans le monde du foot et c'est vraiment bien triste, effectivement, c'est vraiment très très triste.
Merci Stéphane de Dansclos d'avoir été avec nous ce matin. Donc cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast, hein, très rapidement, comme toutes les émissions depuis le début de cette saison. Voilà, puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci en tout cas pour votre, fidélité. Merci Stéphane, en tout cas.
Bonne journée.
Allez, au revoir. Et rendez-vous la semaine prochaine. Salut, merci. Salut.
RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Le parquet antiterroriste s'est saisi du dossier de Romans-sur-Isère. Hier matin, un homme a poignardé plusieurs personnes, faisant 2 morts et 5 blessés. Âgé de 33 ans, l'homme a été interpellé en fin de matinée dans la rue alors qu'il faisait une prière. Il a été placé en garde à vue comme son colocataire. Il aurait expliqué vouloir nettoyer ce pays de mécréants. Des écrits religieux ont été retrouvés à son domicile. Sa compagne, qui a également essayé de s'interposer, a été blessée. Des contrôles par milliers le long des routes depuis vendredi, les forces de l'ordre sont mobilisées pour éviter les départs en vacances des Franciliens, notamment cette période bien particulière de confinement. 160 000 sont mobilisés au total, mais jusque-là, les forces de l'ordre remarquent que les messages sont bien passés et même respectés.